à lire ce texte dans les Écritures, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et à partir du verset 12, nous ferons plusieurs lectures ce matin, et nous rendons grâce au Seigneur pour l'action du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez dans l'action du Saint-Esprit ? Que le Seigneur est déjà capable de préparer nos cœurs à entendre eh bien, c'est la prédication de l'Évangile. Et pour un prédicateur, c'est important également de savoir, excusez-moi, je vous parle avec mes mots, si on est dans le coup ou pas, si on est conduit ou pas. C'est important, oui ou non ? Parce que nous voulons nous tenir devant le Seigneur et ne pas porter le fruit de réflexion qui soit humaine, mais vraiment que ce soit conduit par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est cela que nous voulons, bien entendu. Sinon, nous ne serions pas là. Et je bénis le Seigneur parce que tout à l'heure, nous avons entendu un don spirituel. Et clairement, dans ce don spirituel, il a été dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Je me suis tourné vers Guillaume, je lui ai dit, c'est le titre de ma prédication. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. Alors je dis, Seigneur, merci, alléluia, parce que tu nous parles, amen. Et c'est précieux, hein, c'est précieux l'action du Saint-Esprit, amen. Donc Hébreux chapitre 12 et le verset 12, voici ce qui nous est dit. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Puis le verset 15 aussi, hein, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, parce que nous allons le voir, la sanctification provient de la grâce de Dieu. Amen. Il y a un autre texte que je voudrais lire avec vous, mais nous retenons ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 30 également, cette première épître aux Corinthiens qui nous parle de l'Église, qui attache l'Église à Christ. Et il nous est dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 30, l'apôtre Paul dit ceci, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de la part de Dieu a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et nous allons voir ensemble que notre sanctification, elle est en Jésus-Christ, donc c'est une grâce. Et l'apôtre Paul dit, si vous progressez avec le Seigneur, ne vous glorifiez pas, mais glorifier plutôt le nom de Jésus, parce que c'est lui qui fait ce que vous êtes. Alléluia, amen, et nous voulons bénir le beau nom de Jésus. Je reviens à cette épître, eh bien, aux Hébreux, simplement pour rétablir eh bien, un petit peu le contexte de l'épître aux Hébreux, et celui-ci, c'est ramener le thème, si vous voulez, c'est ramener des croyants qui se sont éloignés du Seigneur à une foi eh bien, vivante et authentique en Jésus. Ces croyants qui étaient, avant de rencontrer le Seigneur, d'expression juive, qui pratiquaient la loi, qui adoraient Yahvé selon les rites eh bien, de la loi, eh bien, avaient découvert la grâce de Dieu dans la personne de Jésus. Leurs yeux se sont ouverts en comprenant que, eh bien, oui, la loi a servi à dénoncer le péché, a montré la sainteté de Dieu, le péché de l'homme, mais la loi a appelé une justice afin que nous puissions nous approcher de Dieu, et comme nous le verrons tout à l'heure, eh bien cette justice a été accomplie en Christ, et ils ont accepté Jésus pour sauveur, et là tout a changé, tout a transformé, eux qui étaient sous la culpabilité, eux qui étaient toujours dans l'inquiétude de savoir ce qu'ils faisaient, si ce qu'ils faisaient était bien ou mal devant Dieu, les voici dégagés, libérés, comme nous l'avons été, pardonné par Jésus, alléluia, amen. Et ils ont découvert en même temps que lorsqu'on marche avec le Seigneur, eh bien, il y a des oppositions, il y a des pressions. Et vous savez, lorsqu'on appartient à une religion qui est d'ordre, j'allais dire qui tient ses origines dans les siècles en arrière, qui est familiale, qui est générationnelle. Parfois, il y a des combats extrêmement violents, extrêmement durs, dans les familles. C'est pour cela que, mes frères et sœurs, on a besoin de prier pour ce quartier. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, ce quartier est marqué par une religion qui tient des êtres humains depuis des générations et des générations. C'est comme ça. Et d'un coup, de dire, bien, passe, eh bien, saisis Jésus, oui, mais il y a toute une pression qui est là, vous voyez ? Et là, la tentation a été grande pour ces Hébreux de revenir en arrière. Et le but, eh bien, de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est de ranimer une foi vivante en Jésus en disant, mais si vous vous éloignez du Seigneur, il n'y a aucun salut possible. Le salut, il est en Jésus. C'est lui le chemin, la vérité et la vie qui mène au Père. Alléluia. C'est lui la résurrection et la vie. C'est vous qui placez votre confiance dans les sacrifices qui sont faits dans le temple à Jérusalem. Eh bien, sachez que cela est incapable de vous sauver. Un seul sacrifice vous sauve, celui de l'agneau de Dieu, Jésus. Alléluia. Et le but de l'Épître aux Hébreux, c'est cela. Mais aussi, il y a toute une partie pratique, eh bien, qui est qu'on va développer ensemble, la sanctification. Si je vous pose la question, quelle définition donneriez-vous au mot sanctification ? Qu'est-ce que vous me diriez ? Sanctification, pardon ? Mise à part, vous voyez une mise à part ? Alors plutôt ça, c'est le mot saint. Alors, on revient aux origines. L'étymologie du mot, voilà. La racine du mot sanctification, c'est saint, ce qui est saint, oui. Et dans la Bible, c'est ce qui est à part. On voit même parfait, à part de ce monde, mais venant de Dieu, donc étant parfait, on va y revenir dans un instant. Mais je vais rester un petit peu général en disant que la sanctification, c'est la vie normale que l'on a lorsqu'on marche avec le Seigneur. C'est la vie normale, c'est ce qu'on doit vivre. C'est-à-dire, c'est la vie pratique d'un croyant qui marche avec le Seigneur, qui veut agir comme lui, qui veut penser comme lui, qui veut aimer comme lui. Sa vie devient notre vie. Comprenons qu'il y a un processus, il y a des progrès à faire dans ce sens-là, la sanctification. Voilà, que Dieu même achève la sanctification dans nos vies. Mais il y a également un impératif. Si la sanctification, eh bien, c'est-à-dire cette action du Saint-Esprit dans nos vies qui nous fait avancer, eh bien, à la mesure de la personne de Jésus, si cette sanctification ne se fait pas dans nos vies, dans nos cœurs, l'Écriture nous dit, personne ne verra Dieu. C'est-à-dire que nous devons, et nous sommes appelés, je crois que le Saint-Esprit nous l'a rappelé ce matin, à pas simplement nous installer, eh bien, dans le salut que nous avons, qui nous a été acquis à la croix du calvaire, en disant Seigneur, c'est bon, je suis sauvé, maintenant j'attends tranquille. Non, le Seigneur attend de toi, eh bien, qu'il y ait une vie pratique qui se mette en route. Alléluia. Des décisions, des actions, des directions, eh bien, qui viennent de la part du Seigneur. Alors, on va voir ça ensemble. Et vous allez voir que ça va être très, très pratique. Mais tout d'abord, mon premier point, ça veut dire que, et celui-ci, c'est que Jésus-Christ, tout d'abord, est notre sanctification. Est notre sanctification. Je le rappelle, c'est ce que nous sommes, c'est une grâce. Le but de Jésus, en venant sur cette terre, a été celui-ci. Et nous le répétons, il a opéré une œuvre de justice. Nous étions des pécheurs, donc condamnables devant Dieu. Et malgré tout l'amour qu'il a pour nous, Dieu ne peut pas passer, ne peut pas laisser impuni les péchés commis par les êtres humains que nous sommes. Il est en droit, parce que c'est sa nature, il ne peut pas se renier lui-même, eh bien de juger. Et nous comprenons qu'il y a là un dilemme. Comment Dieu qui nous aime peut-il aussi nous juger, sachant que le salaire du péché, c'est la mort ? On ne peut pas à la fois aimer quelqu'un et désirer qu'il meure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et c'est un dilemme qui est d'une portée divine. Et ce dilemme, nous le savons, il se résout dans la personne de Jésus. Dieu ne peut pas mourir, c'est le seul parfait, oui, mais il peut payer notre dette, il ne peut pas mourir. Alors, pour donner sa vie à la croix et payer notre dette, faire l'œuvre de justice, Dieu se fait homme. Et dans un corps de chair, le Fils de Dieu, eh bien, est venu sur cette terre pour accomplir cette œuvre de justice. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est mort pour moi. Il est mort pour toi. Alléluia. Il est mort pour chacun d'entre nous. Et comme il est sans péché, la mort n'a pas pu le retenir. Alléluia. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est devenu pour tous ceux qui croient en lui l'auteur d'un salut qui est éternel. Il n'y a rien à ajouter. Tout a été accompli. Alléluia. Mais je voudrais que nous revenions ensemble quelques secondes en arrière pour nous dire, nous faire comprendre, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés, c'est-à-dire ils sont gratuitement sauvés par une œuvre de justice, eh bien, qui les place au rang d'enfants de Dieu, par cette œuvre de justice donc, qui est celle de la croix du calvaire. Alléluia. Amen. Amen. C'est-à-dire que pour être sauvé, il faut que l'affaire de tes péchés soit complètement réglée. Elle a été réglée, payée une fois pour toutes à la croix du calvaire. Alléluia. Et l'Écriture nous dit que nous avons ainsi la paix avec Dieu, pas par les œuvres, mais par la foi en ce que Jésus a accompli. Alléluia. Amen. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un. Est-ce que tu crois que Jésus, ce que Jésus a accompli à la croix, ça suffit pour payer ta dette? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Tu sais, c'est suffisant pour le Père dans le ciel, que ce que Jésus a payé est suffisant pour laver les péchés, pour pardonner. Alors si c'est suffisant pour Dieu, pour le Père, cela doit être suffisant pour toi. Alléluia. Et accepter que Jésus eh bien, a payé ta dette. Amen. Alléluia. Mais dès lors, eh bien, nous comprenons que l'œuvre de la croix a pour but eh bien, de nous rendre justes, mais pour nous faire entrer dans quelque chose de supérieur, dans la présence de Dieu et dans sa sainteté. Et c'est une grâce. Mon Sauveur est assis à la droite de la majesté divine. Le Fils, Dieu fait homme, est assis auprès du Père céleste et il intercède pour moi. Et la Bible nous dit même, je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Je partage eh bien, cette présence. Et nous le savons, parce que dès ici-bas, le Saint-Esprit agit dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Et c'est ça qui nous rend heureux. C'est ça qui nous stimule. C'est que Seigneur, vraiment, tu as changé ma vie. Alléluia. Vraiment, tu m'as transformé. Et tu me permets eh bien, d'agir. Et nous voyons maintenant, donc, eh bien, que la sanctification, une fois que je suis sauvé, eh bien, c'est de mettre en pratique cette vie eh bien, à laquelle tu m'as appelé. Tout à l'heure, on a lu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous sommes des créatures vivantes. Alléluia. Des enfants de Dieu vivants et qui font, eh bien, et qui doivent eh bien, produire des œuvres. Je ne sais pas si vous aimez lire la Bible. Vous aimez lire la Bible? Amen. Hein, voilà. Vous aimez lire la Bible, hein, vous la lisez quand même un petit peu. Voilà. Régulièrement. Une fois par semaine, une fois par mois, c'est déjà suffisant. Hein. Une fois par mois, c'est bien. Hein. Une fois par semaine, une fois par jour, deux fois par jour. Mais gloire à Dieu, mais bien sûr, je crois qu'on a besoin de passer quotidiennement eh bien, des temps en lisant la parole de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on lit la Bible, on voit que le Seigneur Jésus agissait, il parlait, il était avec les gens de son temps, il n'était pas perché sur une montagne séparée des êtres humains, mais il était avec les gens eh bien, de son temps, en train eh bien, d'agir, en train eh bien, de montrer eh bien, la personne de son Père, révélant aux hommes, c'est vrai, leurs péchés, mais également la grâce de Dieu, guérissant les malades et faisant donc l'œuvre à laquelle eh bien, il avait été appelé. Donc nous découvrons une chose, c'est que Jésus qui est le Saint, Jésus qui est parfait, celui dont la présence même dans une synagogue mettait en panique les démons du fait de sa présence sainte, il est Dieu, eh bien, l'Écriture nous dit que maintenant que tu es sauvé, tu dois laisser le Saint-Esprit agir pour permettre à la vie de Dieu, la vie de Christ, se manifester dans ta vie. Et ça devient quelque chose de très pratique. Et c'est la sanctification. Et l'Écriture nous dit, mais si vous négligez cette sanctification, bien vous passez à côté du plan de Dieu, et je réaffirme, hein, il nous est parlé de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mais notre sanctification est en Christ. Alors, je voudrais être pratique maintenant. Maintenant, on l'a compris, tu m'as sauvé, tu m'as lavé de mes péchés, tu habites en moi, Seigneur. Avant, tu ne pouvais pas, je suis un enfant de Dieu, et maintenant, une nouvelle créature, je suis appelé à agir et avoir un comportement qui glorifie ton nom. Vous avez remarqué dans ce texte de l'Épître aux Hébreux, on peut y revenir, donc au chapitre 12, verset 12, il nous est dit « Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites. » Je rappelle le contexte, ils étaient un peu flagellants, chancelants, les chrétiens auxquels était adressée cette épître. Et vous avez remarqué que l'auteur emploie des termes très précis. Il parle bien de mains languissantes, de genoux affaiblis, de pieds voilà, qui doivent suivre des voies droites, etc. Je ne pense pas que, littéralement, au sens premier du terme, leurs mains étaient vraiment languissantes. Je ne pense pas non plus que leurs genoux chancelaient vraiment comme cela. Mais il y a vraiment un sens spirituel à ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et je voudrais que nous puissions prendre ces trois éléments et comprendre dans la sanctification ce que ça veut dire avoir des mains sanctifiées. Avoir des genoux sanctifiés, avoir des pieds qui sont sanctifiés. Et on va voir qu'à toutes ces choses-là correspond eh bien, une action du Saint-Esprit réelle et authentique dans nos vies. Alléluia ! Vous êtes avec moi ? Vous me suivez encore ? Voilà. Des mains qui sont sanctifiées. Vous savez, dans la main dans la Bible, c'est le symbole de l'activité. Avoir des actions. Des actions qui sont sanctifiées. Des actions qui sont conduites par le Saint-Esprit. Savons que le Seigneur est un Dieu d'action, oui ou non ? Si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu s'est mis en action. Il a donné son Fils, alléluia. Lorsque je lis, par exemple, dans le livre d'Esdras, au chapitre 8 et au verset 22, avant de partir, Esdras, qui quitte Babylone et qui se rend vers Jérusalem, prie le Seigneur, il jeûne avec les siens pour demander au Seigneur la protection pendant son voyage. Et il aurait dit, j'aurais eu honte de demander une protection de la part du roi pour nous protéger pendant le voyage, parce qu'il avait dit ceci, Esdras 8:22, la main de l'Éternel est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Alléluia ! C'est merveilleux ça. La main de l'Éternel, ça ne veut pas dire que Dieu a une main comme ça. Ça veut dire que Dieu est en action. Alléluia. Et il produira eh bien, toutes ses œuvres pour te garder, pour te protéger. Alléluia ! Amen. Donc la main, eh bien, signifie eh bien, une action. On sait que le Seigneur a souvent touché des personnes. Et il a touché des personnes dans son ministère terrestre que peut-être nous, on n'aurait jamais touché. Je pense à un lépreux. Cette lèpre dont la maladie est mortelle, incurable. Eh bien, Jésus a touché ce lépreux. Il ne l'a pas touché une fois qu'il était guéri. Mais il l'a touché tandis que celui-ci lui disait « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, posant sa main sur lui, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Alléluia. Amen. C'est bien lorsque le Seigneur agit dans nos vies. Amen. C'est bien lorsque le Seigneur eh bien, fortifie nos âmes. Et je voudrais eh bien, que nous puissions nous aussi dire « Mais Seigneur, j'ai besoin aussi d'agir comme un enfant de Dieu. » Je me souviens d'une petite vignette, c'était un petit dessin, une petite caricature d'un dessinateur chrétien, et on voyait une jeune fille qui était en train de parler en langue. Elle parlait en langue, et dans son cœur, je ne sais plus comment ça a été fait la vignette là, il y avait toutes sortes de médisances à l'égard d'autres personnes. Et ça faisait comme un malaise. Je voudrais dire, mais Seigneur, tu veux que j'agisse en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. C'est bien d'élever le nom de Jésus. C'est bien d'entendre des dons spirituels. Et c'est excellent de chanter les chants que Guillaume, que François, David nous font chanter. Gloire au Seigneur. Mais ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et qu'il y ait des mains sanctifiées. Regardez ce que nous allons lire à présent, ça se trouve dans le psaume 18 et au verset 20. Psaume 18, on va se nourrir de cet exemple pour parler des mains. C'est David qui est en train de rendre grâce au Seigneur après que Dieu l'eut délivré de tous ses ennemis. Et il dira ceci, psaume 18, le verset 20, et... Alors, 21, pardon. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains, car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, je ne suis point écarté de ses lois, j'étais sans reproche envers lui, je me suis tenu en garde contre mon iniquité, aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains, des mains pures, des mains sanctifiées. Et je me suis posé la question, Seigneur, mais à quoi est-ce qu'il fait référence ? De quoi parle-t-il ? Parce que l'Écriture, elle est précise. Dieu ne parle pas en vain. Quand il dit quelque chose, c'est réel. Et ce psaume a été écrit après qu'il ait été délivré de la main de Saül. Et dans ma tête, ça fait tilt. Ça ne fait pas tilt dans votre tête des fois ? Voilà, moi ça fait des fois. Et je me suis dit, mais Seigneur, je me souviens de ce qui s'est passé entre David et Saül. Vous vous souvenez un épisode où David, poursuivi par Saül qui voulait le tuer, s'est caché dans une grotte ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Et que Saül, cherchant de l'ombre un peu comme nous, à Montpellier, eh bien, il a trouvé refuge dans la même grotte. Vous vous souvenez de ça ? Et il y a un des guerriers qui était aux côtés de David qui lui dit « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, vas-y, tu peux le tuer. » Parce qu'il était en train de faire une sieste, Saül, à l'ombre. Et vous vous souvenez de la suite ? Le cœur de David battit, se mit à battre. Il a... qu'est-ce qu'il a fait ? Il a découpé un pan du manteau. Et une fois qu'il s'est réveillé, que Saül est sorti eh bien, de la grotte, il a attendu qu'il soit à quelques distances, eh bien, il lui a montré, on m'incitait, il a crié, mais on m'incitait à te tuer. Et je voudrais qu'on le lise ensemble. Ça se trouve dans 1 Samuel, si vous voulez bien, au chapitre 24 et au verset 11. 1 Samuel, premier livre de Samuel, le chapitre 24 et le verset 11. Voici. Il nous est dit ceci, même verset 10, il nous est dit, David dit à Saül, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici David, cherche ton malheur, tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne, on m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. J'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Et vois mon père, vois donc le pan de manteau qui est dans ma main, et j'allais dire même une main pure. Et je voudrais que nous allions au verset 14. Voici ce que David dit. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai pas la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche ? Qui poursuis-tu ? Un chien mort, etc. Et regardez ce que répondit Saül au verset 18. « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu as agi envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin ? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. » Nous apercevons que c'est ça la sanctification. Agir comme Jésus agit, alléluia. Et cet homme qui avait la vie eh bien de son ennemi entre ses mains s'est mis en garde contre son iniquité. Il n'a pas péché contre le Seigneur parce qu'il se souvient que son Dieu lui a donné une loi. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas de meurtre. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi il m'en veut, mais je ne me vengerai pas. C'est toi que je laisserai agir. Je ne porterai pas la main sur lui. Alléluia ! Et il gardera des mains pures. Et je voudrais vous dire, cette façon de vivre ne va pas bloquer le plan de Dieu pour le reste de la vie de David. Vous savez que parfois il y a des choses qui peuvent bloquer le plan de Dieu. Imaginez que David ait tué, résolu de... Vous vous souvenez l'affaire d'Abraham avec Agar et Ismaël ? Vous vous souvenez de tout ça, hein ? ça allongeait, à mon sens, Abraham a perdu des années parce qu'il a fait selon sa façon de faire. Voyez, il a retardé le plan de Dieu. Le plan de Dieu, bon Dieu, gloire au Seigneur. Le Seigneur fait grâce. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Mais voilà, agir avec des mains pures. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur veut nous inviter. Que ce que nous faisons, que ce que nous, de la façon dont nous agissons dans notre monde, soit reflète la motivation qui vient d'un cœur qui a été changé par le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais avancer avec vous. Il y a plusieurs choses à parler. Et vous avez remarqué, il nous est parlé tout à l'heure de genoux qui fléchissent, de genoux, pardon, chancelants. Hein, je reprends le terme. Voilà. C'est vrai que dans la parole de Dieu, les genoux, ben c'est important. Et puis dans le corps humain, c'est ce qui permet la flexibilité. Je ne sais pas s'il y a un kiné au milieu de nous, mais je crois que oui. Et ben les genoux, c'est important. Ça vous est arrivé d'avoir un genou bloqué? Non, vous êtes toujours jeune, beau et en bonne santé. Hein, mais moi, ça m'est arrivé d'avoir un genou bloqué. Hein, et c'est compliqué. Hein, on perd en mobilité. On perd en flexibilité. C'est compliqué le matin, hein, de se lever quand on a un genou qui est bloqué comme cela. Et ça nous renvoie à une chose, c'est que le Seigneur ne veut pas qu'on nous ayons une vie raide, une vie qui soit, j'allais dire, tout en raideur. Mais il s'attend à ce qu'il y ait que le Saint-Esprit puisse bouger notre cœur et que nous puissions fléchir notre volonté devant lui. Et c'est ça la sanctification. Seigneur, je veux être sensible à la voix de ton esprit pour que lorsque tu me dis d'agir ainsi ou agir comme cela, je ne me bute pas, mais au contraire, je fléchis les genoux devant toi. De toute façon, l'Écriture nous dit que tout genou fléchira devant lui. Voilà. Et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Et je crois qu'un des premiers aspects de la sanctification dans nos vies, c'est que, Seigneur, mais à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est à toi qu'on rend gloire. Alléluia. Amen. Amen. Et voulons être de ces hommes, de ces femmes qui se mettent à genoux, et même si on ne le fait pas physiquement, on met notre cœur, il est à genoux devant Jésus. Lorsqu'on chante les chants que nous avons chantés, mais pour qui tu es, Seigneur? Je ne t'adore pas pour tous les bienfaits que tu vas faire ou que tu as fait, mais déjà ta personne, ce que tu es parfait dans ton amour, dans ta sainteté, mais tout est digne d'être glorifié, tout est digne d'être élevé. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur et nous voulons fléchir les genoux devant lui. Tout lui appartient. Et vous découvrez une chose, mes frères et sœurs, c'est que ce Dieu d'amour nous fait la grâce de régner dans notre vie. Amen. Mais c'est merveilleux. Merveilleux. Je me dis, qu'est-ce que je serais devenu si je n'avais pas rencontré le Seigneur? J'ai rencontré un garçon qui œuvre parmi les musulmans, qui est très actif parmi la communauté musulmane. Il est lui-même d'origine maghrébine et il a à cœur son peuple et il témoigne partout. Et il m'a dit un jour, tu sais, heureusement que j'ai rencontré Jésus. Heureusement que Christ, parce qu'avec le caractère que j'ai, vous savez, le Seigneur nous change, nous transforme, mais des fois, on a quand même des combats dans notre chair. Hein. Oui ou non, hein. C'est là. Hein. Dis, mais si je n'avais pas rencontré Jésus, c'était à l'époque où il y avait Al-Qaïda, tout ça. Mais moi, je serais parti. Je serais parti là-bas. Je serais devenu peut-être un assassin, voilà, un djihadiste. Mais j'ai rencontré Jésus. Et mon cœur a été fléchi par la grâce de Dieu, par l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Que nous gardions toujours un cœur qui se met à genoux devant Jésus. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu. Quand je dis ça, en faisant ces recherches, j'ai été surpris quand même de voir que, assez régulièrement, le Seigneur nous dit que nos genoux ne doivent pas fléchir, que nos genoux doivent être affermis. Et quand l'Écriture parle de cela, elle met le contexte de l'idolâtrie. Dans Romains 11, 4, Paul rappelle cet épisode où Dieu dit à Élie, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Ça veut me faire comprendre aussi une chose, c'est que la sanctification, elle m'oblige à ne pas faire de compromis. C'est-à-dire, il n'y a pas de compromis eh bien, qui doit être fait avec le péché. Il n'y a pas de compromis qui doit être fait avec l'esprit de ce monde, de participer au péché, d'aimer ce que ce monde aime. Et je voudrais dire à mon frère, ma sœur, fléchis les genoux devant Jésus, accepte toute son autorité, mais ne fléchis pas les genoux devant le monde, devant l'esprit du monde. Et vous savez que la Bible nous dit que il y a un temps où, qui viendra où ce qui est bien sera appelé mal et ce qui est mal sera appelé bien. Et nous, on a besoin de tenir ferme. Par contre, je voudrais qu'on continue. Vous êtes toujours avec moi ? On va lire dans le livre de Job. Le livre de Job, et on parle des genoux, hein, agenouillés. Job, le chapitre 23. Chapitre 23 et le verset 10. Pardon, c'est le verset 11. Verset 11. Non, mais on peut lire le verset 10 aussi. Il sait, donc Job parle, il dit ceci, « Dieu sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Ben, » il a un cœur pur, hein. Il nous dit, mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voix, je ne m'en suis pas détourné, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, et c'est cela que je voulais voir avec vous. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ce n'est pas Dieu qui l'a fait plier, mais c'est lui-même qui, entendant la parole de son Dieu, a fait plier sa volonté pour qu'il accepte la volonté de son Dieu dans sa vie. Et je me dis que c'est ça aussi la sanctification. C'est-à-dire être sensible à la voix du Saint-Esprit pour que notre volonté eh bien, puisse changer. On avait des plans, on était sûr de notre fait, on était assuré que c'était comme ça qu'il fallait agir et pas autrement. Et le Saint-Esprit nous a arrêtés, nous a dit « Attention là, la voie sur laquelle ?» Tu vas, c'est une voie dangereuse. Et parlant peut-être à notre orgueil, le Seigneur nous dit ceci, il faut que tu plies. Si tu veux que je continue d'être avec toi, si tu veux que je continue à te bénir, il faut que tu plies devant ma volonté. Et c'est la sanctification, ça aussi. Alors, je vois que vous cherchez des exemples et je voudrais revenir à David. David, vous savez, c'est un homme qui a dû plier. Et je voudrais... On lit encore un texte de la parole de Dieu ? Vous êtes d'accord ? Allez, 1 Samuel, chapitre 25. Tout à l'heure, on a vu comment David est intervenu avec Saül. Mais là, on va voir comment David s'est laissé plier. Et il ne s'est pas laissé plier par un géant, par un roi. Il s'est laissé plier par une femme. Une simple femme, mais qui lui a parlé de la part de Dieu. Alléluia ! Et cette femme s'appelait Abigaïl. Dans le contexte, David est irrité par le traitement qui lui a été fait. Il y a un homme qui s'appelle Nabal. Il a protégé ses troupeaux. Et au moment où on célèbre la tonte des brebis, on fait un méchoui. Il dit, donnez-moi nous aussi notre récompense. Et Nabal, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, le traite avec le plus profond mépris. Et en Orient, quand on traite quelqu'un comme ça, mais le sang il monte vite à la tête. Il dit, allez, on y va et on massacre tout. Et sa femme, la femme de Nabal, est au courant de ça. Et elle vient, avant que l'irrémédiable se passe, elle vient au devant de David. Et voici 1 Samuel, le chapitre 28, elle dit ceci. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Elle est forte, Abigaïl. Hein. Elle prend la faute de son mari sur elle. Car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne! Car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, qu'il t'aurait établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel t'aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Et David dit à Abigaïl, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre, béni soit ton bon sens, béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Alléluia! Amen! Alors, il n'a pas fléchi les genoux devant Abigaïl, mais sa volonté a fléchi. Et au lieu de rendre le mal pour le mal, il a pardonné. Dites-moi, un chrétien, ça doit pardonner ou pas pardonner? Je crois que ce qui qualifie même la vie chrétienne, c'est le pardon. On a été pardonné. Je veux avancer, mais il y a d'autres passages qui nous montrent que Dieu lui-même, je pensais à Manassé dans 2 Chroniques 33, on n'a pas le temps de le lire, mais vous le prendrez tranquillement à la maison, où vous verrez eh bien, que Dieu s'est laissé fléchir par les prières d'un roi impie qui se repentait, Manassé, peut-être un des pires rois eh bien, d'Israël. Et ce roi s'est repenti et Dieu a pardonné. Mais puisque Dieu m'a pardonné, puisque Dieu t'a pardonné, mais la sanctification, c'est aussi de pardonner en retour, de laisser le Saint-Esprit agir dans ta vie. Alléluia, amen, gloire au Seigneur. Et voilà, que le Saint-Esprit nous aide et nous permette à cet égard de faire des progrès. Je voudrais terminer. Des pieds sanctifiés, c'est ce qui nous est dit, que ce qui est boiteux plutôt se raffermisse et suivent des voies droites. La sanctification, c'est de marcher dans des voies droites. Oui, c'est vrai, Seigneur. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, c'est sur ce chemin-là que je dois marcher. Et ta parole me dit également que c'est un chemin étroit et resserré. Et j'ai besoin de rester. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pendant qu'on marche avec le Seigneur, le chemin, Patricia, je te pose cette question, est-ce que le chemin, il s'élargit? Ou il reste toujours étroit et resserré? Mais Patricia, avec les années de conversion que tu as, mais tu peux te permettre certains écarts. Mais enfin, le Seigneur, il te connaît. Tu le connais. Qu'est-ce que vous en... Si je tenais ce langage, vous me diriez quoi? Peut-être que la sœur me dirait, oh, pasteur, il y a un truc qui ne va pas là, hein? C'est pas ça, hein? Et non. Qu'on soit jeune converti, ou qu'on soit converti, Jocelyne, depuis des dizaines d'années, mais le chemin, il est toujours étroit et resserré. Et resserré. Et on a besoin que nos pieds restent sur ces voies droites. Et en me posant la question, je me suis dit, Seigneur, mais où est-ce qu'on voit, Seigneur, que... Où est-ce qu'on voit, Seigneur, que tu prends soin de nos pieds? À quel moment est-ce que, Seigneur, tu nous dis que... parce que on marche, Seigneur, je veux marcher sur la voie droite, c'est vrai, mais marcher dans ce monde, bah, c'est marcher au milieu de toutes sortes de souillures, oui ou non? C'est vrai, on veut marcher avec le Seigneur, mais on ne peut pas s'empêcher d'entendre, de voir, d'accompagner même au boulot, dans certaines fréquentations que l'on a, la fac, etc., l'école, le lycée, voilà, des choses qui sont pas droites, des choses qui sont impures. Et on se dit, mais Seigneur, mais la sanctification également, c'est que je ne me laisse pas influencer par la marche du monde, par la marche du siècle. Moi, je veux marcher avec toi, Seigneur. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment alors où le Seigneur a pris soin des pieds de ses disciples? Quand même, ça, vous devez le savoir. Jean, chapitre 13, où le Seigneur se lève de table, il met autour de ses reins eh bien, un linge dont il se saignit, et puis là, avec un bassin, qu'est-ce qu'il fait? Il lave les pieds de ses disciples. Peut-être qu'il y a une épine, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'ils se sont... À l'époque, ils n'avaient pas des Nike Air, hein. Ça n'existait pas. Hein. Donc, il prend soin des pieds. Je me souviens d'un frère qui avait travaillé en Afrique, c'était Oscar Calgani, qui avait apporté le message de l'évangile au Burkina Faso. Il me disait, au début ça me choquait, mais je laissais faire quand j'arrivais dans une case. Eh bien, il y avait toujours un enfant qui était là pour me nettoyer les pieds. Parce qu'on savait que sur les chemins de brousse, il y avait toutes sortes de parasites, d'insectes qui pouvaient faire mal. Et quand on accueillait quelqu'un, il fallait lui nettoyer les pieds, voir si ses pieds étaient restés sains. Si tu t'es pas fait infecter, si tu t'es pas fait piquer, si ça va pas s'infecter, que tu ne puisses plus poursuivre la marche. Et je crois qu'on a besoin, souvent, régulièrement, de prendre un moment avec le Seigneur. Seigneur, regarde, est-ce que mes pieds, ils sont en bon état? Est-ce que je suis des voies droites? Est-ce que je marche toujours dans tes voies? Pierre dira, mais souvenez, Jésus lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Ah, non seulement les pieds, Seigneur, mais les mains et la tête. Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être pur. Ça veut dire que j'ai été purifié, lavé, je suis sanctifié, j'appartiens au Seigneur, mais je suis encore dans un monde qui peut me polluer. Et j'ai besoin de veiller sur ma vie spirituelle. Et j'ai besoin d'entrer afin, dans la présence du Seigneur, afin qu'il me renouvelle dans la marche à suivre, qu'il purifie ma marche, mes pensées, ma conduite, mes actions, mes décisions, mes directions, pour que je sois au diapason de la volonté de Dieu. Je lis dans l'Écriture, on n'a pas le temps, mais je vous donne des références. Exode 34, lorsque Moïse entrait dans la présence de son Dieu. Il entrait, il sortait. Et je voudrais te dire ce matin, le Seigneur t'appelle à entrer, afin que peut-être il désinfecte tes pieds. Et comprenez, ce n'est pas simplement les pieds, mais c'est peut-être ton cœur. Afin que peut-être une direction change. Et si le Seigneur te reprenait, mais s'il t'encourage, gloire à Dieu. Amen. Moi, je bénis le Seigneur pour les encouragements. Comme ce matin, je rends grâce à Dieu. Le don spirituel, il est en accord avec la prédication. Merci Seigneur. Alléluia. Mais parfois, le Seigneur, il m'a repris. Il vous a jamais repris, vous, le Seigneur? Merci Seigneur, parce que tu m'aimes et tu ne veux pas m'abandonner dans une erreur ou dans un échec. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous voulons dire, Seigneur, je veux marcher dans tes voies. Je ne veux pas marcher dans la confusion, dans le compromis avec le péché, en disant « c'était vrai en 1925, c'est plus vrai en 2023 ». Non, non, le péché, c'est le péché. Et je veux toujours marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Vous voulez bien compris le Seigneur quelques instants? On se place sous le regard de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen, 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 amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Combien ce sont des choses simples. Seigneur, des rappels. Seigneur, que nous lisons. Mais Seigneur, les choses les plus simples sont parfois les choses les plus importantes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Le salut vient de Christ, c'est par la foi. Mais c'est aussi la sanctification. Laisser le Saint-Esprit nous transformer, changer notre nature. Seigneur, je me souviens que tu as dit, Seigneur, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. On ne marche plus selon la chair. On ne marche plus selon la vanité de nos pensées. Mais on veut être conduit par toi. Avoir des pieds purs, des mains pures, des genoux sanctifiés qui savent fléchir devant la volonté du Seigneur. Des mains qui sachent agir avec compassion, amenant le pardon. Seigneur, je te prie afin que nos voix soient des voix qui marchent toujours dans la vérité. Seigneur, et ce matin, Seigneur, je suis convaincu, Seigneur, que tu nous appelles dans un cœur à cœur avec toi pour qu'on soit renouvelé dans la sanctification et dans la marche pratique avec toi. Merci pour les chants. Merci pour les louanges. Gloire au Seigneur. Mais Seigneur, dans quelques instants, on va se séparer, on va rentrer à la maison. Et la sanctification, elle est là aussi. Au travail, auprès de nos enfants, nos collègues, notre conjoint, notre conjointe. Peut-être dans le célibat. Et la sanctification, elle est là. Seigneur, c'est une victoire, la sanctification.
Ce n'est pas un reproche, c'est une victoire. Alléluia. Alors, tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, je voudrais que, si vous êtes dans ce désir de marcher avec le Seigneur de victoire en victoire, dites, Seigneur, je veux vivre cette victoire de la sanctification. Je veux être comme David, avoir des mains pures. Je veux pouvoir fléchir les genoux à ta volonté. C'est ça qui fait ma joie. Et je veux marcher dans la vérité. Alléluia. C'est là où est mon espérance. Amen. Gloire au Seigneur. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, peut-être quelques-uns qui voudraient que l'on prie pour eux, pour elles. Ben, si vous êtes dans cette situation-là, vous voulez que l'on prie pour vous, eh bien, on va le faire ensemble. Alléluia. On va prier ensemble. Si celui, celle qui veut que l'on prie pour lui, pour elle, ben, vous levez votre main et on va prier ensemble afin que Jésus vous bénisse. Oui. Il y a des mains qui se lèvent. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je répète, hein, ce n'est pas un reproche, la sanctification. Et c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Et c'est glorieux. Je veux ressembler à David. Je veux ressembler à l'apôtre Paul. Mais je veux ressembler surtout à Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que nous t'aimons, nous voulons marcher dans tes voies. Parce que nous t'aimons, Seigneur, ton Saint-Esprit agit dans nos cœurs pour, Seigneur, qu'il trouve en nous, Seigneur, les valeurs, la vie, Seigneur, qui vient d'en haut. Seigneur, tu nous as arrachés aux ténèbres, aux péchés, et maintenant, Seigneur, nous voulons vivre pleinement cette nouveauté de vie. C'est une vie en abondance. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, tu vois les bien-aimés, Seigneur, qui, mon Dieu, veulent progresser avec toi, qui veulent grandir avec toi. Toi, Seigneur, mon Dieu, celui, celle auquel peut-être tu as parlé en rappelant le pardon, en rappelant, Seigneur, que la vengeance, Seigneur, ne doit pas venir de l'homme, mais toi, tu es le Dieu de justice. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, alors je te prie dans cette matinée, afin que, Seigneur, ton Saint-Esprit sanctifie toutes les pensées. S'il y a une colère, une jalousie, une amertume, que tout cela soit chassé dans le nom de Jésus. Seigneur, peut-être un découragement, Seigneur, qui ne vient pas de toi, mais que tout cela soit chassé dans le nom de Jésus. Et Seigneur, qu'il y ait la joie maintenant de dire, mais je marche dans des voies saintes, dans les voies de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Quelques secondes, peut-être encore, pour quelqu'un qui a besoin simplement de dire Seigneur. Et je parle à quelqu'un qui ne s'est pas engagé avec Jésus. De dire Seigneur, je veux délaisser mes voies, les voies que j'ai pratiquées jusqu'à présent, et je veux te suivre toi, Seigneur. Je veux suivre le Christ Jésus.